où nous voyons Dieu. Qui est-il selon lui-même? Jésus avait demandé aux disciples, il a dit, qui dit-on que je suis? Et ensuite, après, ce n'était pas important, finalement, ce que les autres pensaient. Ce qui était important, c'est ce qu'il était réellement, selon lui. Et c'est là, nous avons fait plusieurs études, et la semaine dernière, eh bien, nous avons vu le Dieu fidèle. Dieu est fidèle. Et je vais rappeler la fin de notre étude de dimanche dernier. Justement, on parlait de la Genèse, c'est le livre des commencements. L'Exode, c'est le livre de cette de la rédemption. Ils sont rachetés, ils sont délivrés de l'esclavage. Et justement, ça correspond le thème de notre présidence, cette nouvelle naissance, ce jour-là, ce jour de la rédemption. Puis après, on avait vu Exode, Nombre, et c'est cette Lévitique d'abord, c'est Dieu qui pourvoit un moyen pour venir s'approcher de nous, parce que nous sommes quand même pécheurs et on a besoin d'être pardonnés, et Dieu présente un moyen de sacrifice, des sacrificateurs et sacrificatures qui permet de s'approcher de Dieu. Après, il y avait les Nombres qui représentaient surtout cette période de 40 ans quand le peuple d'Israël errait dans le désert parce qu'ils avaient manqué de foi, parce qu'ils n'avaient pas fait le pas de foi. Et donc, il y a 40 ans de pérégrination. Et puis on arrive au Deutéronome, et là, c'est le nouveau départ. Ils sont là, à la frontière de Canaan. Et Moïse leur rappelle tout ce que Dieu a fait, et puis il dit maintenant, cette fois-ci, on y va. Et peut-être que ça a été un peu l'expérience de votre réussite aussi, il y a eu un moment de joie et tout ça, quand vous avez rencontré le Seigneur, et puis ensuite, il y a quand même des choses qui sont arrivées, et puis des difficultés, peut-être un égarement, peu importe pourquoi, mais la communion était refroidie. Et puis alors, après, on dit, voilà, on reprend. Le Seigneur dit, viens, on reprend. Il y a moyen d'être pardonné de tout cela, et puis on reprend cette marche avec le Seigneur. Et donc, après, c'est l'entrée dans Canaan. Et l'entrée dans Canaan, c'est, contrairement à ce que pensent certains, ce n'est pas le paradis, ça ne veut pas dire le ciel, parce que quand ils rentrent à Canaan, oui, bien sûr que, voilà, il y a beaucoup de belles choses. Mais il faut prendre possession, et il y a eu des combats, et il y a eu des difficultés, il y a des chutes et tout ça, et ça c'est pas caractéristique du ciel. Au ciel, on sera complètement délivré, et il n'y aura plus de soucis, ni de chutes, ni de tristesse. Et donc Canaan représente, pour nous, ça représente la vie chrétienne. Oui, le Seigneur a pourvu beaucoup de choses, mais il faut prendre possession. Et puis, le plus grand problème des enfants d'Israël lorsqu'ils sont rentrés en Canaan, ce n'était pas les Cananéens, mais c'était eux-mêmes. C'était eux leur plus gros problème. Et donc, ce matin, bien justement, je veux prendre un passage dans le livre de Josué. Josué, chapitre 24. Et donc, je crois que ça va... Ça ne paraît pas ? Bon. Ah oui, c'est vrai. Josué 24. On a encore des perfectionnements à faire avec le matériel. Mais voilà, ça ira mieux la prochaine fois. Donc Josué chapitre 24. Et le verset 1 nous dit, Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges, ses officiers. Et ils se présentèrent devant l'Éternel, et Josué dit à tout le peuple. Alors voilà, c'est là l'assemblée, c'est tous les responsables, c'est le peuple, c'est tout le monde est là, et il veut parler à ce peuple. Donc c'est vers la fin de sa vie, la conquête a été faite, voilà, chacun a reçu son territoire, et maintenant il les appelle et dit, j'ai besoin de vous parler. Et donc, vous pourrez relire ces premiers versets, mais on va aller au verset 14. parce qu'il leur rappelle, il leur dit, voilà, Dieu, voilà ce qu'il vous a fait. Et puis, il remonte jusqu'à quand Moïse a quitté, Abraham a quitté Ur en Chaldée. Puis après, Moïse, comment il les a sortis de l'Égypte. Et puis après, dans le désert. Donc, il leur rappelle toutes ces choses. Et au verset 14, il dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou des dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison, eh bien nous servirons l'Éternel. Verset 16, le peuple répondit et dit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux de grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi les peuples au milieu desquels nous avons passé. » Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. » Le peuple dit à Josué, « Non, car nous servirons l'Éternel. » Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Ils répondirent, « Nous en sommes témoins. » Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple, il lui donna des lois, des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Josué dit à tout le peuple, « Voici, cette pierre servira de témoin contre vous, contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. » Puis Josué renvoya le peuple, chacun, dans son héritage. Notre titre ce matin, c'est « L'Éternel est un Dieu jaloux », ce qu'on le trouve au verset 19. L'Éternel, c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Et l'expression « un Dieu jaloux » peut, au premier abord, vous choquer. On ne dit pas de Dieu qu'il est jaloux. Ah, ça, c'est pas bien, c'est même pas gentil de le dire de quelqu'un. Parce que ce mot-là a une mauvaise connotation dans le langage courant et c'est pas tellement ce qu'il est, mais c'est ce qu'il entraîne, ce qui découle de la jalousie. La jalousie peut rendre un mari possessif de son épouse et au point parfois de, elle a l'impression qu'elle l'étouffe tellement. Et dans les cas extrêmes, ça peut mener même jusqu'au fémicide. On entend parler tout le temps, et c'est la jalousie. La jalousie provient ou engendre l'envie. C'est un peu, ils sont très liés, les deux mots, jalousie et envie. Soit c'est l'envie qui provoque la jalousie, ou la jalousie qui provoque l'envie. Tout ce qui en découle de tout cela, et puis surtout si ce n'est pas contrôlé. Si on laisse aller, alors ça peut aller très loin. Un peu de jalousie et finalement on commence à enfreindre pas mal des commandements de Dieu. On commence à mentir, on commence le Seigneur, il parle de ne pas tuer le meurtre, mais il dit même quand tu dis une parole et tu rabaisses quelqu'un, tu es en train de commettre le meurtre. Donc, ça peut aller très loin. Et souvent, les gens disent « jaloux parce que j'aime ». En fait, c'est plus de l'amour de soi que de l'amour de l'autre. Donc, la jalousie, c'est cette suspicion d'une infidélité ou d'une impureté chez la personne objet de notre amour. Ça, c'est dans le langage courant et donc c'est pas bien. Mais j'ai imaginé une situation et je vais vous la lire cette histoire que j'invente, eh bien, elle va un peu représenter justement ce qui se passe dans ce chapitre. Et donc, le contexte pour cette parole, Dieu est un Dieu jaloux. Voilà, imaginez une conversation. Madame parle à son mari après 15 ans de mariage. Voilà. Chérie, je t'aime beaucoup. Tu es un bon partenaire et un bon père. Tu travailles de longues heures pour subvenir aux besoins de la famille et de la maison. Aussi, je t'aime et je suis heureuse d'être ton épouse. Je sais que tu souhaites mon bonheur et mon épanouissement. J'ai rencontré Jules qui est jeune, athlétique, amusant, et j'aimerais que tu acceptes de me laisser courir avec lui, regarder des films ensemble, partager des loisirs. Finalement, je sais que je serai une meilleure épouse pour toi parce que j'aurai fait avec Jules des choses que j'ai envie de faire. Je veux que tu saches que c'est toi que j'aime et que je t'aimerai toujours. Tu as tant sacrifié pour moi. Je suis très attaché à toi. Dans notre vieillesse, je ne me vois qu'avec toi. Vous pouvez imaginer quelles pourraient être les pensées du mari en entendant cela. Je ne sais même pas si une épouse oserait faire ça. Mais en fait, c'est ce qui se passe ici. C'est le peuple qui dit, Dieu, moi je t'aime. Vraiment, je t'aime. Tu es notre Dieu, je dis ça. Mais après, ils ont des relations par ailleurs. Mais on t'aime. Il n'y a que toi, c'est ça. Mais bon, on a quand même... Écoute, voilà. Donc, vous savez, c'est... Et ne soyons pas trop durs avec eux, parce que moi, je connais beaucoup de chrétiens qui vivent comme ça aussi. Dimanche matin, Seigneur, 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 Seigneur. Mais si on regarde dans leur vie de tous les jours, il y a des fréquentations qui sont extra, on va dire, je veux dire conjugales, mais extra-bibliques, qui n'ont aucun rapport avec la vie chrétienne. Et pourtant, on est content de soi et on continue comme ces enfants d'Israël. Ce mari a beaucoup fait pour elle, mais elle ne le veut que pour pourvoir à ses besoins matériels et son sens de sécurité. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent à Dieu aussi. Et tous, ils disent, écoute, tu me protèges, tu me gardes des malheurs, et puis tu me réserves une place au ciel. Et puis moi, après, moi, je m'épanouirai autrement. Et combien, s'ils ne le disent pas avec les mots, ils le disent avec leur vie. Et c'est, quand je vous ai dit, c'est la teneur de la discussion ici que nous avons entre le peuple d'Israël et Josué soulève ce comportement choquant. Regardez ce qu'il leur dit au verset 14. Il dit « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. » C'est bien parce qu'il y a un problème dans ce domaine qu'il en parle. Si Josué leur dit, écoutez, abandonnez ce service auprès des dieux qu'avaient vos pères, donc l'autre côté du fleuve, donc l'autre côté de l'Euphrate, donc le père d'Abraham avait des divinités. Il y a aussi ce qu'ils ont découvert en Égypte, il y a aussi ce qu'ils ont découvert dans le pays dans lequel ils se trouvent. Il dit, écoutez, craignez l'Éternel et faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Faites disparaître. Il ne parle pas d'écart accidentel, hein, il ne parle pas de petite déviation là. Non, non, il parle, il dit, il emploie le mot servir. Hein, ne servez plus ces dieux-là. Hein, c'est, quand il dit servir, ça veut dire que c'est une pratique, c'est une habitude, c'est un comportement. Et il dit, comment pouvez-vous les servir alors que Dieu a tant fait pour vous? Et il leur a rappelé, tout ce que Dieu avait fait depuis que Abraham est sorti de son pays et jusqu'à l'arrivée en Canaan, là, il y a des centaines d'années. Et le peuple, vous savez comment le peuple répond? Ils ne reconnaissent aucune infidélité. Voyez ce qu'ils disent au verset 17 et 18, ils disent, car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude, nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux de grands prodiges, qui nous a gardés pendant toute la route, et nous avons suivi, et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé, il a chassé devant nous les peuples. Il dit, oui, mais l'Éternel, mais il n'y a pas de problème, nous, on est d'accord, tu as fait de grandes choses pour nous. Où est le problème? Vous savez, vous connaissez ce comportement qu'on trouve parfois bon, chez les ados et chez les adultes aussi. C'est que quand quelqu'un soulève un problème dans notre vie, eh bien, on se comporte comme si on est choqué, qu'ils ont même soupçonné qu'on ait pu avoir ce problème. Hein, vous savez, je n'ai pas toujours été ange. Je ne suis toujours pas. Mais je me rappelle une fois, maman, elle m'a parlé, elle m'a dit, « Steve, pourquoi tu as fait ça ?» Je dis, « Mais tu penses que moi, j'aurais fait une telle chose ?» Je ne disais pas oui, je ne disais pas que c'était faux, mais je remettais la chose sur elle, mais sur quelle base tu me soupçonnes quelque chose? Et vous savez, là le peuple est en train de Josué est en train de leur dire, mais vous servez d'autres dieux. Et ils disent, comment nous servons l'Éternel, c'est lui qui a tant fait pour nous. Ils ne sont pas en train de dire que ce n'est pas vrai. Mais en même temps, ils font semblant que ce n'est pas vrai. Et vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui se comportent comme ça aussi. Hein, on arrive le dimanche matin, alléluia, les prières sont belles, l'adoration est de tout cœur, et puis le pasteur dit quelque chose et amen. Et alors qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais on essaie de se faire passer pour vraiment spirituel et on ne soulève pas les petits problèmes qui existent. Vous savez, c'est tellement humain de faire ça, mais vous savez, les problèmes ne se règlent pas quand on a ce comportement-là. Hein, parce qu'après, on essaie de passer, et là, le peuple, il va essayer de passer et dire, mais non, y a pas, tu soulèves un problème qui n'est pas là. Hein, nous, il n'y a que l'Éternel, et nous adorons l'Éternel, c'est notre Dieu, et nous allons le suivre, ce sera toujours le nôtre, il n'y a pas d'autre chose. Et à les écouter, on se dirait, mais c'est les meilleurs. Et Josué sait que ce n'est pas ça. Et puis la suite des événements montreront que, justement, ils ont un problème. Et tant que, hein, c'est dans les proverbes, hein, il dit, si je ne reconnais pas mes fautes, et si je ne les abandonne pas, eh bien, il n'y a pas de changement. Hein. Si pour corriger quelque chose, il faut reconnaître qu'il y a un problème, et le confesser, et demander à Dieu de nous aider à surmonter. On reviendra là-dessus. Et donc, là, et ils parlent comme si ça ne leur viendrait même pas à l'idée d'abandonner l'Éternel. Et si vous avez lu l'Ancien Testament, comme nous sommes en train de lire dans l'Église, eh bien, vous savez combien de fois ils ont abandonné l'Éternel. Et le problème paraissait déjà, parce que Josué leur dit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, les dieux que servaient vos pères au-delà du Jourdain, ou les dieux des Amoréens dans lesquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a vous et il y a moi. Moi, j'ai déjà pris ma décision. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel et nous servirons l'Éternel strictement. Aucun autre. » Et il est en train de leur dire, mais vous, vous n'avez pas encore fait ce choix. Vous devez choisir. Et vous devez choisir non pas de seulement dire, mais l'Éternel est notre Dieu, il sera notre Dieu, et nous n'avons pas d'autre, et nous reconnaissons tout ce qu'il a fait pour nous. Mais c'est de dire, mais j'abandonne. Il dit, choisissez qui vous voulez servir. Parce qu'on ne peut pas servir les deux. Hein, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. On ne peut pas suivre deux voies. Hein, que j'aime bien faire les randonnées, j'arrive à un moment où il y a une fourche, et bien il faut que je choisisse. Hein. Je ne peux pas dire, ah, j'aimerais bien les deux. Pas possible. Hein. Sinon c'est le grand écart, et puis finalement on n'avance pas. Et combien essayent dans la vie chrétienne, ou bien ils restent au carrefour, là, ils restent là et puis ils attendent, parce qu'ils ne veulent pas choisir. Et puis ça ne progresse pas. Josué dit, moi, je donne l'exemple, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous voulez faire comme nous, c'est très bien. Vous ne voulez pas faire comme nous, eh bien, faites ce que vous avez envie de faire. Et là encore, nous avons un exemple, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre ce que font les autres. Hein, on n'a pas besoin de savoir ce que vont faire les autres et jusqu'à quel point ils vont suivre l'Éternel. Il dit, je prends la résolution pour moi, ma personne, ceux qui me sont associés, nous voulons suivre l'Éternel et le suivre strictement, personne d'autre, il n'y aura aucun autre dans notre vie, hein, il n'y a que lui. Et c'est en arrivant à ce point-là, hein, donc, il vient de dire, hein, choisissez, il dit, et donc au verset 19, c'est là où Josué justement dit cette parole concernant le Seigneur. Il dit, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Vous dites que vous voulez servir l'Éternel. Vous n'aurez pas la force de suivre l'Éternel. Car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Et il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Si on prend ce verset hors contexte, ça fait peur, n'est-ce pas? Et il leur dit, vous savez, Dieu est un Dieu saint, et Dieu est un Dieu jaloux, et tout ce qui ne rentre pas dans cela, eh bien Dieu, eh bien il ne pardonnera pas. Hein, il ne tolère pas. Il ne détourne pas le regard. Non, ça, c'est une chose, là, il ne bouge pas. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas, c'est-à-dire que les conséquences de cet écartement, hein, de ce choix, eh bien, vous subirez sûrement les conséquences. Et ici, il est en train de leur dire quelque chose qu'ils ont déjà entendu, hein. Lorsqu'ils étaient sortis de l'Égypte, ils sont arrivés au mont Sinaï, et là, à Exode chapitre 20, nous avons ce qu'on appelle le décalogue, ou les 10 commandements qui sont donnés, et donc il y a justement ce commandement concernant l'idolâtrie. Donc dans Exode chapitre 20, verset 5, donc voilà le commandement. Il dit, tu ne te prosterneras point devant elle, parlons des statues, et des idoles. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Là, je prends vraiment sérieusement. Il dit, les autres péchés, il n'a pas dit des choses pareilles. Mais il a dit, mais là, quand tu commences à te prosterner devant autre chose que moi, quand tu commences à servir d'autres que moi, il dit, là, il n'y a pas de tolérance. C'est tolérance zéro, comme on dit. Il dit, là, eh bien, là, c'est les conséquences, ça va loin. Hein? C'est une faute grave. Il dit, parce que Dieu est un Dieu jaloux. Là, il ne tolère pas cela. Et il n'y a rien qui l'oblige à tolérer cela. Hein, c'est où il est Dieu, où il n'est pas. Hein, c'était à la génération précédente que Moïse avait parlé. Hein, la génération qui était sortie de l'Égypte. Il avait donné, dans Exode 20, il a donné les commandements. Ici, Moïse a déjà, après les 40 ans, il a rappelé encore tous ses commandements, et on les trouve dans Deutéronome 5, là où il rappelle encore ses commandements, et regardez comment il est dit. Le passage un peu long, c'est Deutéronome 5, vers 6 à 10, il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et les enfants d'Israël disent, bon, non, on est d'accord, là, on accepte. Il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il n'y a pas... Ça, c'est le commandement. Il dit, tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Je dis en passant ce commandement, pour vous qui avez fait peut-être votre catéchisme en tant qu'enfant, c'est que ce commandement-là, on ne vous l'a jamais cité. Hein, celui-là, il n'est pas cité. Et on le saute et on passe à autre chose. Parce que, quand même, ça a un peu embêté, parce que quand on se trouve dans un bâtiment où il y a toutes sortes de statues, on ne dit pas que c'est des dieux, on dit que c'est des représentations, ça permet de se concentrer, tout ça. Il a dit, non, non, pas de représentation, et tu ne te prosterneras pas devant elle. Peu importe comment tu l'appelles, mais tu ne le feras pas. Hein, nous, on a une salle nue. Parce que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. On n'a pas besoin de symboles pour nous aider à adorer Dieu. Et il dit, tu ne te prosterneras point. Parce que je suis un Dieu jaloux. Pas du tout. Tolérance zéro, je ne veux pas. Tu m'expliques toutes sortes de choses, comment ça t'aide à te concentrer. Je veux bien, dans les premiers siècles, les gens ne savaient ni lire et écrire, on leur a fait des représentations pour les aider à fixer, parce qu'ils ne savaient pas lire et des images. D'accord, il y avait des bonnes intentions. Mais maintenant, pourquoi ? Hein, pourquoi maintenant ? Et il dit, tu ne te feras point de représentation de quiconque, de personne, d'animaux, de n'importe quoi. Et il dit, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Et je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Et je fais et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui aiment et qui gardent mes commandements. Hein ? Il est en train de dire, il dit, non, non, c'est pas que je suis méchant, mais c'est que quand on sert autre chose que Dieu, ça a des répercussions sur les générations qui suivent. Mais aussi, il a dit que quand on sert le Seigneur, on choisit de servir le Seigneur, eh bien, même les générations qui suivent, même s'ils ne croient pas, ils sont bénis quand même. Vous savez, ici en France, on est tellement bien, mais parce que fut un temps où il y avait pas mal de croyants. Et le Seigneur se souvient, nous sommes leurs descendants, nous sommes là, et on a pas mal de choses dont on jouit encore. Et rien que le fait de respecter la vie, l'État n'est pas fataliste avec nous. Il dit, bah, écoute, si t'es malade, bah, écoute, c'est le sort a voulu cela, hein, mais tant pis pour toi. Hein. C'est pas comme ça qu'on est reçu à l'hôpital. Et ils font des efforts, mais ça, c'est des valeurs chrétiennes de ceux qui nous ont précédés. Et donc, nous bénéficions déjà, même l'incroyant en France bénéficie de la grâce de Dieu envers ceux qui ont cru avant nous. Et nous devons nous en souvenir. Hein, ces paroles sont vraies. Dis parce que je suis un Dieu jaloux. Ça, pour ça, écoute, là, il n'y a pas de discussion, c'est comme ça. Hein? Vous n'avez jamais essayé de raisonner avec quelqu'un de jaloux? Il n'y a pas moyen, il n'y a rien. Et l'Éternel prend très personnellement cette infidélité. Hein, il dit, celui qui... Ce n'est pas une question que tu me rejettes, c'est une question que tu vas après quelqu'un d'autre, sans me rejeter. Même ça, je n'accepte pas. Que tu sois distrait dans ton adoration, que tu partages, que tu en aies pour quelqu'un d'autre, que tu aies... Non, je veux tout. Le sentiment est si fort qu'il va appeler, par la suite, quand on lit dans l'Ancien Testament, il va parler de l'infidélité des enfants d'Israël comme de la prostitution. On n'aime pas ce mot-là. Hein, on n'aime même pas le dire à l'Église. Mais Dieu dit, vous savez, vous voulez comprendre ce que ça représente pour moi? Le fait d'être infidèle, d'aller après autre chose, même si vous ne m'avez pas renié, mais vous allez après quelqu'un d'autre, eh bien pour moi, cette pratique, c'est de la prostitution. Ce sentiment est fort. Il dira dans Jérémie chapitre 3, verset 6, il dit, « L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sur tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. » Parce qu'ils avaient des petites divinités, des petites craintes, des symboles, de toutes sortes de choses, des protections, hein, protection du pêcheur, protection de l'agriculteur, protection de la ville, protection... Et vous savez, ça existe encore aujourd'hui, hein. Ici en Provence, ça existe encore. Hein, on a des petits rituels, là. Ça fait folklorique, mais je me demande s'il n'y a pas encore quelque chose derrière. Il dit non, non, ça, c'est de la prostitution spirituelle. Ésaïe, le prophète Ésaïe, redit ses paroles à Israël. Dans Ésaïe 42, verset 8, il dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je ne partage pas. » Rappelez l'histoire de ce Jules-là. Le mari dit « Pas de Jules. Il est aussi sympa qu'il peut être, aussi innocent qu'il peut paraître, pas de Jules. » Et on trouve ça normal, n'est-ce pas? Et pourquoi c'est pas normal pour Dieu? Vous savez, les 70 ans d'exil en Babylone, la destruction de Jérusalem, c'était la conséquence de l'idolâtrie. Hein. C'est parce qu'Israël constamment s'éloignait, constamment revenait à l'idolâtrie, constamment. Et finalement, Dieu a détruit la ville de Jérusalem. Détruit le temple, le beau temple, là, il est massacré par des gens. Hein, les enfants d'Israël, ils avaient du mal, ils disent, bon, non, on garde ce temple-là, mais bon, on a notre défi. Il dit, non, vous, si vous avez suivi cela, vous m'avez rejeté, je laisse détruire le temple. Voilà, c'est ce que vous avez fait pratiquement dans votre cœur. Eh bien, moi, je le fais concrètement, matériellement. Et puis, en plus, ils sont emmenés en exil... 70 ans, et puis bon, l'histoire elle est pas belle, comment les choses se passent et tout ça, et 70 ans à Babylone. Et vous dites, comment Dieu est-ce qu'il a pu faire cela? Écoutez, D'un côté, c'est la dureté, hein, c'est strict, mais d'un autre côté, c'est l'action de grâce. Parce que vous savez, depuis que les enfants d'Israël sont revenus de Babylone, ça ne leur est plus venu à l'idée d'avoir des idoles. Hein. Vous le regardez l'histoire, hein, même là, maintenant, bah, vous allez dans la synagogue, il n'y a pas de statue, rien du tout. Au pire, ils embrassent le texte biblique, les manuscrits. Mais une idole, ah, bah, ça ne vient même pas à l'idée. Il les a guéris, mais quelque chose de bien. Bon, après, vous savez, des fois, l'être humain, il arrive à trouver d'autres astuces hein, pour contourner. Mais Dieu, il dit, je l'emmène là-bas et je vais le soigner, mais correctement cette fois-ci. Hein, chaque fois, il me demande pardon, il revient, puis il repart, et demande pardon, il revient. Cette fois-ci, on va lui faire quelque chose. Ça va faire mal, mais ça va le guérir. Ça, c'est parce que infidélité. Plus tard, à l'époque de Jésus, eh bien, ce même peuple, ah oui, il n'a pas d'idole, il n'adore pas Dieu, mais il rejette le Messie. Et il le crucifie. Rejet total. Et même ils diront à Pilate que son sang retombe sur nous, sur nos têtes et celles de nos enfants. Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit? Parce qu'en l'an 70, donc une trentaine d'années après, eh bien, Jérusalem est rasée. Et il n'y a pas de temple. Il n'y a pas, et vous allez visiter là-bas, et il y a une partie de la ville qui est construite sur les ruines du temple. C'est, vous savez, Dieu dit, c'est pas seulement que tu ne vas pas, mais en plus, il faut me choisir. Il faut me suivre. Parce que je suis un Dieu jaloux. Et je ne permets pas qu'on court après autre chose. Il supporte longtemps, il suffit de lire l'Ancien Testament, vous dites, mais oh, heureusement que Dieu n'est pas un homme, parce qu'il n'aurait pas supporté ça longtemps. Un homme, mais Dieu a exercé beaucoup de patience, il y a des centaines d'années qui passent avant que Dieu, depuis l'entrée en Canaan jusqu'à l'exil de Babylone, il y a des centaines d'années. Et Dieu a quand même, hein, il a exercé de la patience. Hein. Ben, je ne sais pas si vous avez été patient avec quelqu'un pendant 400 ou 500 ans. Hein. Mais c'est le même Dieu hein, avec qui on a affaire. C'est un Dieu qui est patient avec nous aussi. Mais n'abusons pas de sa patience. Hein. Je sais comment vous appréciez les gens qui abusent de votre patience. Vous pensez des choses que vous ne dites pas tout haut, mais vous pensez très fort. Vous savez, dans le Nouveau Testament, dans Colossiens chapitre 3, verset 5, il nous parle d'idolâtrie aussi, parce qu'il nous dit faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Dit la cupidité est une idolâtrie. C'est pas une idole. Ça n'a pas. C'est matériellement, la cupidité, on peut pas le construire, on peut pas le former. Mais c'est une réalité. Pourquoi? Parce que dans la cupidité, eh bien, l'argent prend toute l'attention. Hein, donc, ça détourne l'attention de Dieu. Hein, quand je commence à aimer l'argent, et même il dit par ailleurs, et l'amour de l'argent est une source de tous les maux. Hein, donc, c'est-à-dire là, il prend un exemple, la cupidité. Mais en fait, une idole et une idolâtrie, c'est n'importe quoi qui est là dans ma vie et qui me détourne du Seigneur. Qui fait qu'à certains moments de ma vie, je suis pris par autre chose. Hein, c'est un peu ce que demandait la dame, hein, elle dit Jules. Hein, écoute, tu me laisses un peu de temps avec Jules, il y a des moments où je serai avec Jules, et puis, mais t'en fais pas, hein, je reviens. Mais c'est ça que, c'est ça dont Dieu parle. Il dit, et là, si je vous dis que ce mari est devenu jaloux, vous allez dire, ouais, mais c'est normal, hein. Mais, et Dieu dit, je suis un Dieu jaloux, je ne partage pas. Ce qui doit être à moi, je le veux pour moi. La cupidité, c'est une idolâtrie. L'apôtre Jean, il dit aux nouveaux croyants, il dit petits-enfants. Il dit dans 1 Jean 5:21, il dit petits-enfants, gardez-vous des idoles. Donc ça veut dire que c'est encore possible pour nous, même enfants de Dieu, même jeunes dans la foi, zélés dans la foi, parce que les nouveaux convertis, c'est les plus zélés. Hein. Il dit même zélés dans la foi, attention aux idoles. Parce que très rapidement, il y a des personnes qui deviennent des idoles, ou bien il y a des pensées, des systèmes théologiques, il peut y avoir même des attractions dans la vie, et on peut être détourné et on ne se rend même pas compte. Il dit, mais attention, soyez toujours vigilants qu'il n'y a pas quelque chose. Vous savez ce que c'est qu'un éclipse? C'est quand la lune passe entre le soleil et vous. Il y a eu une éclipse du soleil. Mais vous savez, l'éclipse du Seigneur, hein, c'est quand le monde passe entre nous et le Seigneur. Il y a une éclipse du Seigneur. Et on ne le voit plus. On sait qu'il est là, mais on ne le voit plus. Pourquoi? On est en train les yeux sur son autre chose. Et ça, c'est l'idolâtrie. Il ne tolère aucune coexistence avec votre Jules. Je ne sais pas comment, à quelle forme, qui est votre Jules. Mais si vous en avez un, sachez qu'il dérange le Seigneur. Il pouvait lui dire, Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as sauvé, je sais que la vie éternelle vient de toi, j'aime ta parole, j'aime être avec les chrétiens. Mais j'ai Jules, il est gentil, il est sympa, il n'est pas méchant. Et il ne m'oblige pas de t'abandonner, hein, il me tient compagnie à certains moments. Il dit non, pas du tout. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, il dit « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Il dit « Mais on ne peut pas avoir de cohabitation. Un temple, c'est pour une divinité. Il n'y a pas un temple qui contient toutes les divinités. » Le temple est consacré à une divinité. Et votre corps, eh bien, depuis que vous êtes né de nouveau, eh bien, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et je sais que parfois, je vais le dire de manière imagée, on reçoit le Saint-Esprit dans notre vie, et puis après on lui dit, écoute, toi, tu seras au salon, mais je te donne un fauteuil, un très beau fauteuil, là, tu restes là, tu ne bouges pas, tu restes là, tu mets de l'ambiance. Mais tu ne vas pas dans le grenier, puis le placard là-bas, tu ne touches pas, tu n'ouvres pas, s'il y a un cadavre dedans. Donc tu ne touches pas là-bas, et puis après, on vivra très bien ensemble. Hein. Tu t'occupes de certaines parties de notre vie, et ça ira. Hein, on dit ça un peu au Seigneur. Il dit, écoute, pour ce qui est de l'assurance vie, toi, tu t'en occupes. Hein, la vie éternelle. Et puis pour ce qui est de quand j'ai des problèmes, eh bien je t'appelle, hein, je garde le numéro sous le coude. Et puis voilà, le dimanche je suis pas un païen, donc je vais au culte. Mais sinon après, quand même, hein, tu vas pas gâcher ma vie quand même. Hein, j'ai des désirs, des choses que j'ai envie de faire et des choses comme ça. Vous savez, je suis en train de dire ce qu'on pratique parfois. Et peut-être que ce n'est pas notre désir, peut-être qu'on n'est même pas conscient de cela, et on a besoin d'être rappelé, et puis on se dit, mais Seigneur, en fait, où est-ce que j'en suis? Josué ne se contente pas d'une déclaration d'intention de la part du peuple. Hein. Il dit, nous, l'Éternel sera notre Dieu, c'est lui qui nous a délivrés, il n'y a pas de problème, on ne discute pas de ça, c'est clair. Mais Josué va les pousser à l'engagement. La mise en œuvre de leur résolution. Il dit, eh bien, si c'est lui que vous avez choisi, alors il faut se défaire des autres. C'est la reconnaissance d'une faiblesse
Hein?
Je suis distrait, je suis partagé.
Hein? C'est la reconnaissance d'une faiblesse et je prends une démarche pour assurer que les promesses que je fais à Dieu est tenue.
Hein? Nous avons, on dit, vous rappelez, même on l'a chanté tout à l'heure, hein, Seigneur, il n'y a que toi, hein, c'est toi que je veux suivre jusqu'au bout, et tout cela, on le dit bien. Il dit, mais bon, mais comment est-ce que tu vas le faire, hein, c'est beau tout ça, mais tu vas faire comment? Quel plan est-ce que tu as mis en place pour pouvoir t'assurer que tu le fais? Josué ne se fait pas berner par les belles déclarations hein, du peuple. Il dit, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez vos cœurs vers l'Éternel, votre Dieu. Eux, ils n'ont pas encore admis qu'ils avaient d'autres... Ils n'avaient pas été pensés... À aucun moment est-ce qu'ils ont reconnu qu'ils servaient d'autres dieux. Mais Josué dit, moi je sais que vous servez d'autres dieux, donc ôtez-les. Jacob, vous vous rappelez que Jacob, il est revenu et puis il a trouvé des... Il savait qu'il y avait des... Sa femme avait... pris des terres à fin de son frère, Laban, et puis les avait cachés et tout ça. Et quand ils sont arrivés vers le pays, il y a un moment où Jacob s'arrête, et puis il creuse un trou, et il met tout ça dedans, il recouvre, puis on continue le chemin. Et vous savez, il y a un moment où il faut mettre tous ces petits dieux-là et les enterrer une fois pour toutes. À Éphèse, ils ont brûlé les livres qui correspondait à la vie passée, qu'ils ne voulaient plus. Ils ont fait un grand feu. C'est le truc, je m'engage et je le fais de manière à ne pas pouvoir revenir. Il faut se détourner des idoles de nos vies, puis se tourner vers le Seigneur. Retirer et remplacer. Cesser pour commencer. Rompre pour s'attacher, séparer pour s'approcher, mourir pour vivre. C'est ça la vie chrétienne. Et ça, c'est l'engagement total avec Dieu. Et il est bon de faire comme Josué, de choisir un signe qui rappelle l'engagement. Vous savez, pour le mariage, on met une bague, c'est pas la bague qui fait le mariage. La bague, elle est là juste pour rappeler que je suis marié. Et pour dire aux autres, je suis marié. Donc, laissez-moi tranquille, je suis marié. Et moi, je sais que je suis marié, donc, je contrôle mes yeux et mes loisirs. Et il dit, dans ta vie spirituelle, est-ce que tu as une alliance? Hein, c'est ça qu'il a proposé à eux, une alliance. Il a dit, on va, avec des mots, on va s'engager devant Dieu. Et peut-être, vous, dans votre personnalité, dans votre vie, vous avez besoin de placer quelque chose dans la maison, là où vous allez voir souvent, qui sera un rappel de votre engagement. Hein, c'est le signe de votre alliance avec le Seigneur. Seigneur, il n'y a que toi. Et chaque fois que vous le voyez, c'est quoi? Quelqu'un arrive chez vous, il dit, ça, c'est quoi ça? C'est qu'est-ce que ça représente? Ah, ça, c'est... Eh bien, il y a un moment où j'ai dit au Seigneur... Je suis marié à toi et à personne d'autre. Et c'est là, parce qu'on a besoin de... Hein, les paroles, c'est facile, mais après, vous savez comment c'est les résolutions de Nouvel An. Hein. Comme il n'y a rien pour assurer la réalisation, ben, vous savez, au bout de février, on ne connaît plus. Hein. C'est une faiblesse de l'être humain, mais voilà. Donc, être faible n'est pas un problème, c'est savoir gérer sa faiblesse qui est important. Et alors, par quel signe est-ce que je vais déclarer au monde mon engagement? Ben, parfois, c'est un changement de langage. Il y a des mots que je n'emploie plus. Il y a des manières de dire les choses que je ne fais plus. Parce que c'est une manière de leur dire, moi, c'est... Hein? Parfois, ça peut être un changement d'habillement. Hein. Parce que vous savez, l'habillement, ça dit des choses. Ainsi, en fonction de la manière dont vous habillez, vous avez des réactions. Parce que ça les appelle. Il y a les loisirs. Tu vois, les loisirs, la place des loisirs. C'est pas le loisir lui-même qui est mal, c'est la, s'il me détourne les intérêts que je peux avoir, etc. Vous savez, les enfants d'Israël avaient une attirance secrète vers les idoles. Mais pour Josué, pour Dieu, c'était concret. Vous ne voulez pas le reconnaître, ce n'est pas pour ça que ça n'existe pas. Et il fallait attirer leur attention dessus pour qu'ils traitent du problème. Parce que Dieu est un Dieu jaloux et qui ne tolère pas les Jules dans la maison. Donc, priez. Père Céleste, je crois que nous avons compris de quoi nous parlions. Et Seigneur, maintenant c'est le moment pour chacun d'entre nous de voir où nous en sommes par rapport à ce que tu enseignes. Et c'est à nous d'être fidèles. Tu es un Dieu jaloux. Donc c'est à nous de nous conformer et de te plaire. Après tout, nous te devons tout. C'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui es patient avec nous maintenant. C'est toi qui as préparé, qui nous prépare une place, afin que là où tu es, nous soyons aussi. Et Seigneur, si nous allons passer l'éternité avec toi, autant commencer à passer le temps avec toi maintenant. Père, nous te prions de nous aider, de nous conduire. Tu connais chaque cœur, et Seigneur, je ne suis pas là, je ne peux pas montrer quelqu'un du doigt, parce que je me parle aussi. Et Père, aide-nous, à chacun d'entre nous, à vraiment trouver les Jules que nous avons dans notre vie et les écarter et nous concentrer sur toi seul. Et Seigneur, si quelqu'un ce matin ne te connaît pas, t'avais jamais reçu, et bien Seigneur, qu'il comprenne que tu es mort sur la croix pour ses péchés et que tu veux pardonner tous ses péchés. Et que tu veux le recevoir et lui donner une vie nouvelle. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Nous allons prendre un chant. Donc c'est le 300. Nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes. Nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes. Pour la vie et la mort, nous sommes au Seigneur. C'est pour l'éternité, Jésus, que tu nous aimes. Ta croix nous a rendu la paix et le bonheur. Je lis la deuxième strophe. Nous sommes au Seigneur, ah, vivons pour sa gloire et mourons au péché. Saint héritier du ciel, saisissons chaque jour les fruits de sa victoire et reposons en paix dans son sein paternel. Le troisième, nous sommes au Seigneur, que nos âmes te louent, que nos lèvres aussi bénissent ton amour. Ô Jésus, mes tièdeurs souvent te désavouent, je voudrais être à toi, mais à toi, sans retour. Nous sommes au Seigneur, au plus fort de la détresse, le cœur de ses enfants peut s'assurer en lui. À l'heure du combat, au jour de la tristesse, partout, sur mon sentier, son amour a reluit. Nous chantons la dernière strophe. Nous sommes au Seigneur dans la sombre vallée du dernier ennemi.
Jésus nous rend vainqueurs, la face de mon Dieu ne peut m'être voilée, car pour l'éternité, nous sommes au Seigneur.